Allez, Bac FM, il est 18h30. Tout de suite, on va retrouver mes deux invités du soir pour évoquer une association qui fête ses un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et puis un festival aussi qui arrive ce week-end. Bonjour Philippine, bonjour Max.
Bonjour.
Vous êtes mes deux invités. Aujourd'hui, vous êtes créateur de l'association Terrain Commun. Terrain Commun, c'est une aventure qui a commencé, je le disais en introduction, il y a un tout petit peu plus de 2 ans maintenant. Pas mal de choses se sont passées déjà, avec notamment l'accueil de plusieurs groupes comme la No School. Il y a Ravissus Textor aussi qui a commencé à prendre ses marques. On va voir ensemble comment vous travaillez avec les autres acteurs du territoire et quelles projections vous avez aussi en commun avec eux. Comment vous collaborez finalement entre votre projet et le leur sur le terrain commun et ailleurs. La rentrée ralentit pas mal votre activité car il y a le premier festival de l'association qui arrive très vite, c'est ce week-end. On va bien sûr revenir dessus pour tout savoir sur ce qui va se passer ce week-end et la volonté derrière tout ça. Juste avant, on va faire un petit focus sur le lancement de cette association Terrain Commun. Comment c'est né?
Alors, Terrain Commun, c'est né il y a 2 ans, physiquement, on va dire, parce que c'est un projet qui a été...
Réfléchi depuis plus longtemps.
Exactement, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on s'intéresse à l'écologie et qu'on a envie de réunir toutes les personnes qu'on a rencontrées, de réunir toutes nos idées pour former un lieu et pouvoir accueillir du grand public pour créer des événements, créer des ateliers. Et donc, on a posté un message en fait sur Facebook en cherchant un jardin il y a 2 ans. Et la ville de Nevers nous a répondu en nous proposant plusieurs espaces.
Donc en fait, c'est pas vous qui êtes allé vers la ville de Nevers, c'est la ville de Nevers finalement qui est venue à vous en voyant l'appel que vous faisiez finalement.
Ouais, complètement. Ils nous ont contactés en nous proposant plusieurs espaces, on a fait des visites et notamment la visite de cette friche. Donc, qui est située en centre-ville, qui fait 1,3 hectare, donc qui est super grande, qui a divers milieux aussi au niveau biologique, au niveau écologique. Et donc, du coup, ça nous a carrément séduit parce que, on est juste à côté du Café Charbon, donc qui est déjà un bel espace culturel dans Nevers. Ça nous a on a tout de suite vu le potentiel en fait.
De tous les endroits que vous avez pu visiter, c'est le seul endroit qui vraiment cochait la majorité des cases que vous vouliez, un petit peu à l'image de quand on va visiter une maison ou quand on va voir une voiture en fait.
Ouais, alors c'est intéressant parce que c'est pas forcément le plus beau jardin du monde. Quand on arrive la première fois, c'est une friche qui a été laissée en libre évolution depuis plus de 25 ans. Donc il y a des ronces, voilà, c'est pas vraiment le lieu de rêve, mais en fait nous on voit tout de suite le potentiel parce qu'il y a deux bras de la Nièvre qui passent de part et d'autre, il y a des milieux intéressants écologiquement et on voit tout de suite des espaces, des arbres qui ont été laissés en libre évolution donc qui sont très grands et là on se dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire et donc et cette question en fait des friches et des lieux qui se réen sauvage, nous c'était une question qu'on creusait en fait. Nous quand on a vu le lieu, on s'est dit bah en fait c'est ici qu'il faut le faire, donc il y a du boulot. C'est pas parfait dès le départ, mais c'est super intéressant.
Mais c'est l'objectif aussi que ça soit peut-être jamais parfait, parce que ça permet aussi que ce projet ne meure jamais, qu'il n'y ait jamais de fin définitive. En fait, il est en constante évolution. Mmh. Et pour revenir sur les 25 ans de friche, comme vous le disiez, de laisser à l'abandon presque, en fait, finalement, c'est ce qui fait maintenant la richesse et le fait que vous découvriez aussi peut-être chaque jour de nouvelles choses à travers ce lieu.
Exactement. En fait, on a passé 9 mois à observer le terrain avant de faire quoi que ce soit, de tondre même. Mm. En fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un refuge, que ce soit pour les animaux ou pour les plantes. On a trouvé énormément de plantes intéressantes. Donc, on a fait ça avec des botanistes, avec la LPO pour les animaux, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un lieu qui était habité et qui avait servi de refuge pendant toutes ces années. Donc, on ne voulait pas arriver et juste imposer notre projet. Donc, on a fait cette étude en fait en amont. Et ensuite, on a dégagé des zones où là, on pouvait s'installer sans craindre de nuire en fait à la biodiversité.
Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous contactez des professionnels, des botanistes, etc., comment vous présentez votre projet en fait? Vous dites quoi clairement?
Alors ouais, bah, généralement, donc c'est soit des gens qu'on connaît, soit des gens qui ont entendu parler du projet et qui sont très intéressés pour venir voir le lieu et faire un recensement pour eux ou pour l'association pour laquelle ils travaillent. Et donc ouais, ils sont super séduits, ils voient tout de suite le potentiel parce que très vite, quand on a le regard, on voit tout de suite les plantes, tout de suite les insectes, les oiseaux qui arrivent alors qu'on est en ville. Donc c'est assez étonnant d'avoir ce ressenti de campagne ou de périphérie, alors qu'on est vraiment en centre-ville.
Il y a un petit fun fact, c'est le jour de la visite du jardin, on avance un peu dans une prairie et en fait on voit un chevreuil. Donc on est, faut s'imaginer, donc on est à 10 minutes à pied du centre-ville.
Ouais. Et pour les personnes qui viennent pas de Nevers, on est vraiment dans le cœur de la ville. On n'est pas un endroit où on a la campagne qui va être à 5 km, quoi, vraiment pas. Ouais.
Et donc on voit un chevreuil dans le jardin, donc là on se dit ok, il se passe quelque chose. Et en fait oui, en effet, en regardant sur des cartes GPS, on s'est rendu compte d'une coulée verte qui remontait jusqu'à Coulanges et peut-être vers les bois, donc il doit venir par là. Mais voilà, on s'est dit ok, là c'est intéressant parce qu'il y a quand même une grosse, ça fait partie de la grosse faune qui vient dans le jardin, si près du centre-ville. Donc il y avait quelque chose qui nous a tout de suite un peu interpellé, quoi.
Vous avez une profession aussi à côté de cette autre activité qui est l'association. Vous êtes designer tous les deux. Mm-hmm. Est-ce que ça complète finalement, est-ce que ce projet complète votre premier emploi, est-ce que votre premier emploi complète aussi ce double emploi presque?
Ouais, c'est exactement ça en fait. Le métier de designer, il est complètement poreux par rapport à l'écologie. Enfin, je veux dire, nous, on s'y retrouve vraiment, ça complète notre activité. Après, ça fait quand même 10 ans qu'on s'intéresse à ces questions-là. Mais le fait d'avoir un jardin, c'est...
Vous, c'est une ligne conductrice d'amener vraiment l'écologie dans votre profession première.
Exactement.
Ouais,
c'est un truc qu'on fait vraiment depuis 10 ans de manière très active. On travaille que dans des projets qui sont en lien avec... art, design et écologie en fait. Donc c'est vraiment la forme jardin qu'on a choisi là avec Terrain Commun, c'est vraiment pour nous la meilleure façon de générer des projets, d'inviter des acteurs, de générer des collaborations, etc. Ouais.
On parle souvent de Nevers comme une ville médiane. Est-ce que ce projet là aurait été possible dans une plus grosse agglomération ou à l'inverse dans une plus petite agglomération, ou est-ce que Nevers en fait ça se prête parfaitement à un projet comme celui-ci?
Ouais, Nevers, c'est assez facile, entre guillemets, de monter des projets, parce que la ville est à taille humaine, donc c'est facile de rencontrer des acteurs locaux influents ou les politiques, et de créer des projets avec eux, d'être en co-création, en fait. Donc, je pense que c'est un vrai atout que ce soit une ville médiane.
On l'a vu avec l'exemple, d'ailleurs, de la mairie qui vient vers vous, en fait,
oui,
finalement, et pas vous qui allez toquer plusieurs fois à la porte en disant « on veut ce projet-là ». Non, c'est eux qui viennent vers vous. C'est quoi la continuité, d'ailleurs, pour eux, avec vous? Ils continuent de vous suivre, ils viennent voir ce qui se passe
Oui, complètement. Il y a un suivi avec les acteurs avec qui on a... les acteurs avec qui on a collaboré au début. Et voilà, ils viennent plusieurs fois par an. On est super contents. Après, on a une charte en fait à respecter qu'on a co-créé avec eux aussi. Et voilà, donc après il n'y a pas de mainmise entre guillemets.
Après, juste pour compléter, c'est aussi grâce à l'appui de Dan Wozniak qui est à l'urbanisme, qui nous a tout de suite qui a vu le projet et qui a tout de suite soutenu ça. Et c'est aussi grâce à elle qu'on a pu en fait avoir ce contrat d'utilisation temporaire qui nous permet d'occuper en fait le jardin. On n'est pas propriétaire, mais on est usager en fait du lieu.
On va clôturer ce côté un petit peu plus politique finalement du projet. On va retourner dans le concret, on va remettre les mains un peu dans la terre. Les étapes ensuite, du coup, vous avez visité une fois, deux fois, vous avez rencontré un chevreuil du coup sur le terrain. Les étapes par la suite, c'était quoi? Fallait du coup nettoyer un petit peu tout ça, pour parler un peu plus cru.
Ouais, exactement. Fallait arriver et défricher. Donc là, c'était... au départ, on s'est fait aider par Guillaume Devire, qui est un maraîcher de la Barrette. Et qui a des outils tractés, mais légers. Et donc, il a pu passer sur le terrain pour débroussailler les plus gros axes.
Parce qu'il fallait s'adapter aussi au niveau du matériel par rapport au terrain.
Oui, et puis ce qu'on voulait en faire, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des engins lourds qui viennent sur le terrain qui tasseraient le sol. Comme on n'avait pas encore décidé quelle partie on allait utiliser, voilà, on voulait que tout reste quand même assez léger, pas trop tassé. Et donc voilà, Guillaume est venu et a défriché les plus grosses parties. Et suite à ça, donc ça c'était à l'automne, et suite à ça, en hiver, on a pu planter le jardin forêt. Et là, pour le coup, on a travaillé tout à la main, donc avec une belle équipe. Et voilà, donc on a greliné le sol, les bandes, et puis semé ensuite dans notre serre les premiers végétaux pour les planter au printemps prochain.
Ouais, donc ça, c'était des étapes parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs espaces que vous avez créé, le jardin forêt, le premier espace, donc la mini forêt, la serre de bouturage et puis enfin la grande prairie. Ça, c'est les quatre lieux, un petit peu de votre lieu. Comment vous avez réfléchi justement ces espaces différents? Pourquoi une serre de bouturage? Pourquoi un jardin forêt? Qu'est-ce qui le différencie de la mini forêt?
Alors, c'est plutôt un boisement, la mini forêt. En fait, on va dire que c'est plutôt un boisement. En fait, ça fait 25 ans que le terrain a été donc laissé en libre évolution. Il y a eu un entretien qui a été fait juste sur les prairies, donc ils ont coupé de temps en temps, donc ce qui a empêché en fait que ça devienne un boisement partout. Et donc cet espace-là, c'est des arbres qui ont à peu près 20-25 ans.
D'accord.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la jeune forêt. Voilà. Et après le reste, c'est des prairies qu'on a ouvert parce qu'il nous fallait quand même un peu d'espace pour pouvoir faire le jardin, faire des espaces pour le festival. Du coup, ça s'est venu après. En fait, il y avait une grange en bois qui était sur le terrain, qui était vraiment magnifique, mais qui avait été laissée un peu à l'abandon et qui menaçait de s'effondrer. Donc, il y a eu la mairie a décidé de le mettre en sécurité en le faisant tomber. Du coup, donc ça a ouvert un espace énorme. Donc, nous, derrière, on a semé des engrais verts. Donc, des plantes qui ont permis de coloniser rapidement le milieu.
Vous avez renaturalisé un lieu qui ne l'était plus, en fait.
Bah, on a semé une prairie, ouais, c'était une terre à nu, quoi, et en fait, pour éviter que ce soit les ronces qui le conquérissent, on va dire, on a préféré semer des plantes qui étaient intéressantes pour le sol, pour le régénérer, et ça a très bien fonctionné, et donc ça, c'est vraiment le site du festival où on va être là le week-end prochain.
Et on va en parler bientôt de ce festival. Alors, ce festival prouve concrètement la volonté première qui est le partage, l'accès à tous. Mais ça, c'est une volonté depuis la première heure, en fait, finalement. Par quoi elle s'exprime? Comment elle se prouve, finalement, cette volonté de partage et d'accès à tous? On peut venir comme ça, en fait?
Ouais, alors il y a deux choses là sur le festival. Il y a la programmation avec... une programmation qui va parler des enjeux écologiques actuels et comment on y fait face, comment on s'adapte avec des intervenants. Donc il y a pas mal d'intervenants assez renommés dans les domaines de l'art et de l'écologie. Il y a toujours ces deux ponts, puisque nous, c'est notre prisme, c'est la façon dont on regarde les choses, finalement. Et aussi, le jardin, il va être ouvert pendant un week-end. Ce sera la première fois qu'il sera ouvert comme ça. Il y aura le 58, le restaurant qui va venir cuisiner. Ouais. On va avoir une buvette, il y a des spectacles, il y a des conférences, il y a des ateliers. Enfin, le but, c'est aussi de venir profiter aussi du jardin. Et donc, ça peut être en famille, entre amis, boire un verre. Et voilà, donc ça va être voilà, il y a aussi ce côté-là au festival. C'est aussi venir juste passer un moment, découvrir le lieu, regarder les plantes, regarder l'espace. Et je pense que ça va être très chouette.
Avec un vrai lien entre l'art et votre projet, c'est une volonté aussi depuis le début que l'art intègre vraiment votre projet, parce que finalement c'est aussi de l'art ce que vous faites à travers Terrain Commun.
Oui, c'est gentil.
ma mère est fleuriste, alors si je dis le contraire, elle va me taper sur les doigts.
Non, c'est vrai qu'il y a un aspect être artistique dans la façon dont on fait le jardin, les plantes qu'on y met, etc. Et puis on y réfléchit beaucoup. C'est vrai qu'on a un œil on regarde ça comme des designers, donc un œil sur tout ce qui est esthétique.
Il y a un côté artistique, du moins, voilà.
Ouais, voilà. On peut avoir ou même architectural. Enfin, on a toujours ce regard aussi qui vient s'infuser dans la façon dont on fait les choses, quoi.
Oui, complètement. On a pensé le projet de façon à ce que la déambulation pour le public soit agréable, que ce soit aussi un support pédagogique, peut-être qu'il puisse parler à des enfants, aussi expliquer quelles plantes, quels sont ses bienfaits, pourquoi on l'a amené au jardin, pourquoi elle se plaît dans ce milieu. Voilà, on a tout pensé comme ça.
Renouer, c'est le nom de cette première édition pour le festival qui arrive donc le week-end prochain. Tout est dit dans le titre.
En fait, oui, il y a plusieurs lectures au titre. Le nom, il vient d'une plante qui s'appelle la renouée du Japon. C'est une plante invasive qui laisse personne indifférent. Hein. En général, on en parle de manière très virulente, tout simplement parce qu'elle coûte des centaines de millions d'euros à éradiquer, entre guillemets, chaque année. Et en fait, nous, on a un patch sur le jardin. Et en fait, les intervenants qui vont venir sont quand même des spécialistes de cette question-là, de ces plantes invasives qui arrivent avec le changement climatique. Et qu'on ne peut plus arrêter, en fait. Sauf que cette plante, c'est aussi une des polluantes. Et en fait, nous, elle s'est mise à des endroits où il y a des pollutions. C'est qu'il y avait des bâtiments, Et donc une pollution, ça peut être du fer, hein, par exemple, juste dans le sol, un excès de fer. Mmh. Et donc cette plante, elle germe grâce aux métaux lourds, genre, grâce au fer, par exemple. Donc ces plantes, en fait, elles ont des bienfaits, mais on en parle très peu. Donc il y a aussi ce thème-là qui est un peu sous-jacent au festival, c'est que ces plantes qui arrivent, et il y en aura de plus en plus, et elles sont parfois incontrôlables. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Alors qu'elles ont des bienfaits, elles ont un côté invasif aussi. Comment on apprend à gérer, en fait, ces nouveaux flux de plantes, d'animaux qui viennent d'ailleurs parce que le climat se réchauffe, tout simplement.
Parce qu'au-delà de la musique qu'on va pouvoir retrouver, il y aura aussi de la prévention dans ce week-end. Alors, de la prévention gentille, mais de la prévention explicative aussi, peut-être.
Ouais, je pense que les intervenants seront de très très bons pédagogues sur ces sujets.
On va revenir d'ailleurs sur les intervenants qui seront présents. Mais ouais, ce que vous leur demandez, c'est ça, faire de la prévention gentille, mais voilà, prévenir de la nécessité aussi de ces lieux.
Ouais, et puis c'est des gens qui sont dans les milieux de la recherche parfois, dans des choses très pointues, donc je pense, et qui sont assez pédagogues. Donc je pense que l'enjeu, c'est aussi d'amener des clés pour les gens qui s'intéressent à ces sujets sur comment on fait, en fait, pour s'adapter, en fait, tout simplement.
Mais c'est marrant parce que quand j'ai décidé de vous inviter et que j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, j'ai vu le nom du festival Renoué et je me suis dit dans ma tête, c'est marrant, on dirait un peu un message politique qu'on pourrait avoir sur les affiches Renoué. Et après, j'avais ça dans le coin de ma tête et quand j'ai rebossé un peu l'émission, je me suis dit, en fait, c'est pas si bête ce que je pense parce que vous défendez un enjeu social aussi, un petit peu sociétal à travers Terrain Commun. Donc au final, Renoué, c'est un peu ça, c'est un message politique en fait.
Il y a plein de lectures. Alors, il peut y avoir ces lectures-là, en effet, je pense.
Bah si, complètement. Renouer, c'est renouer avec le vivant, renouer entre nous aussi, renouer avec
l'autre, avec les plantes, en général. Avec
les... Ouais, c'est ça.
Cette renouée du Japon dont je te parlais, cette plante invasive, elle est vraiment très très mal vue, en fait, parce qu'elle elle vient d'ailleurs, alors que c'est nous qui l'avons ramenée. Mmh. Elle s'impose, elle est invasive. Comment on fait pour renouer avec ces... Tu vois, c'est des flux de migration de plantes, etc. Il y a des questions très intéressantes, très philosophiques aussi, qui nous parlent du rapport à l'autre. Est-ce qu'on laisse de la place à des plantes qui viennent d'ailleurs et qu'on ne maîtrise pas? Comment on fait?
Comment on les gère, bien sûr.
Mais c'est vrai que ces plantes nous disent aussi, vous avez abîmé vos milieux. Et c'est pour ça qu'elles sont là, en fait. Elles sont là pour réparer les blessures. Donc il y a vraiment cette question de comment on fait, en fait. Parce que c'est aussi à cause de nous, entre guillemets, que maintenant elles s'étendent.
C'est toutes ces questions philosophiques sur lesquelles on va pouvoir se pencher donc ce week-end pour cette première édition du festival Renoué avec beaucoup d'intervenants, comme vous le disiez. Comment vous avez construit justement ce programme d'intervenants? Pourquoi eux? J'ai vu qu'il y avait des acteurs locaux aussi, notamment dans le milieu de la musique. C'était important aussi de concerner des personnes du coin et amener aussi des personnes de extérieures de toute la France.
Ouais, nous on est toujours sur cette approche globale locale. Je te laisse...
Oui, complètement. On parle donc des plantes, des plantes qui voyagent, qui arrivent ici et qui ne sont pas forcément d'ici. Et dans la programmation, vous voulez aussi que ça se voit. Donc on a un mélange d'acteurs locaux, effectivement, avec Alice Forge, par exemple, pour la musique, qui est bien connue ici. Et un autre musicien, qui est Johannes Kornberger, qui, pour le coup, est autrichien. Et une programmation diverse. Et puis, plus au niveau botanique, c'est Thierry Thévenin, notre parrain d'association, qui est un paysan herboriste dans la Creuse, vraiment reconnu nationalement. Et donc, c'est lui qui a pris en charge cette partie de programmation plus écologique. Donc, il nous a fait venir des intervenants très, très qualifiés, des botanistes, des chercheurs... des artistes qui travaillent avec le végétal. Et pour la partie design, ça pour le coup c'est nous qui nous en sommes chargés. Donc on avait quelques connaissances qui étaient bien placées dans le milieu. Et donc il y a notamment Olivier Vadreau qui est un artiste bourguignon qui nous installe 3 structures au jardin sur lesquelles qui seront support aux conférences, aux petits espaces un peu plus chill, on pourra venir se poser sur les structures, manger son petit repas du 58 et boire un petit verre, ça va être sympa. Et pour Olivier Vadreau qui va faire donc une conférence avec Thierry Chancogne de Ravissus Textor. Ouais. Voilà, et donc lui, Olivier, c'est un spécialiste des architectures qui provoquent le débat, qui font assembler. Et donc on va parler de tout ça, comment est-ce qu'il crée des architectures pour rassembler les gens, pour faire parler d'un sujet sans trop de hiérarchie. L'idée c'est vraiment d'échanger la parole. Et puis on a aussi Axel Gisreau et Arnaud Magnin de l'atelier Luma, qui sont deux designers dans nos âges, dans une trentaine d'années, et donc qui travaille sur les plantes invasives locales, donc plutôt du côté de Arles. Et comment est-ce qu'il les transforme en nouveaux matériaux pour créer des objets, pour créer des architectures, des isolants, des voilà, divers matériaux qui peuvent être présents dans nos quotidiens du futur.
Il y a cette volonté aussi à travers, ouais, c'est pas vraiment des masterclass, mais ça y ressemble un petit peu quand même, à travers ces échanges du moins avec le public, que aussi peut-être le public prenne des décisions en partant de dire peut-être qu'à la maison on pourrait faire ça.
C'est ça, finalement. L'idée c'est de donner des clés, de s'inspirer, de se dire il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être possibles dans mon jardin, dans mes pratiques de jardinage, mais aussi dans mes choix de matériaux pour mon habitat.
Dans l'utilisation de l'eau aussi. C'est vrai que c'est un point important, tous les intervenants, de par leur recherche ou leur expérience, vont pouvoir apporter des connaissances en fait très pratiques que n'importe qui pourra mettre en place chez soi. Ouais. Et c'est ça qui nous parlait aussi, c'est d'amener ces connaissances qui sont assez pointues et de les ramener à un niveau plus simple, parce que tout le monde ne se passionne pas non plus pour la botanique ou des choses comme ça. Mais là, on aura vraiment des intervenants qui seront tout publics et qui pourront délivrer des messages beaucoup plus... large et accessible.
Au-delà d'aller dans la prévention, de dire faites attention, ça c'est pas bien ceci, cela, où les gens écoutent, mais après ça sort, là donner des clés de comment on peut faire chez soi, pourquoi pas faire comme ça parce que c'est mieux, etc. Là par contre ça donne des vraies idées concrètes et pourquoi pas après les réaliser chez soi.
Exactement, il y a peut-être une part aussi d'espérance, c'est-à-dire que tous les gens qui sont sur cette programmation sont des gens qui sont vraiment proactifs et qui essaient de faire changer les choses parce qu'ils sont vraiment passionnés et que ça les touche vraiment. Donc ils sont aussi ils vont transmettre un certain espoir aussi par rapport, tout n'est pas fichu, je pense, on peut encore faire des belles choses.
Oui, puis l'idée c'est de changer de regard un peu aussi sur les pratiques écologiques qui sont des fois un peu vues comme tu dis, un peu la leçon, qui est un peu...
C'est moralisateur, un peu,
C'est pas toujours agréable d'écouter ça. Et là, vraiment, l'idée, c'est de changer de regard, de montrer un point de vue plus optimiste et plus sexy, quoi, de ces pratiques-là, ça peut être chouette.
En fait, c'est juste une programmation de gens cooleux. Humainement, c'est des gens qui sont très... qui seront très ouverts, très simples. Donc on n'est pas sur un discours
moralisateur.
Plus moralisateur.
Et ces gens très cool, vous pouvez les retrouver donc à la première édition de ce festival qui s'appelle Renouer, organisé par l'association Terrain Commun, qui sont mes invités aujourd'hui pour en discuter. Un festival très abordable justement, avec énormément de gratuité aussi, et surtout pour les étudiants, parce que je crois que c'est entièrement gratuit pour les étudiants. Ouais. C'est une volonté de votre part que les étudiants puissent venir sans se ruiner. Pour le coup, c'est le cas parce que c'est gratuit.
Ouais. Il y a cette gratuité, et puis on a aussi travaillé avec les profs de l'ESSAB. On les a tout de suite mis au courant quand on allait lancer les conférences pour qu'il y ait le maximum d'élèves qui puissent venir, parce que les intervenants au niveau design, art, sont vraiment des gens qui sont en raccord avec les cursus qu'on propose à l'ESSAB en design. Donc on pensait, quand on a fait la programmation, on s'est dit que ça serait chouette d'avoir des acteurs qui peuvent aussi parler aux étudiants de Nevers et qui puissent leur apporter aussi peut-être des envies, leur inspirer des choses. Donc ça a été aussi pensé en amont en faisant la programmation.
Il y a cette volonté aussi de leur dire venez vous intéresser à cette biodiversité, venez comprendre certaines ficelles aussi qui sont importantes à savoir, surtout dans l'optique que eux plus tard ils auront un métier qui travaille avec la mode, etc., où des fois on sait que c'est compliqué le lien avec mode, biodiversité, tout ça, mais qu'il est quand même possible de faire certaines choses.
Ouais, clairement, il y a là les intervenants, je pense qu'ils vont pouvoir, vont pouvoir montrer un visage assez intéressant de ces métiers-là, quoi. Et en fait, il y a un potentiel de recherche derrière et de production d'objets, de mode, peu importe le
On sait que la mode pollue beaucoup, c'est un constat qui se fait très régulièrement, et alors qu'il est possible peut-être de trouver des solutions, et c'est par aussi ces échanges que peut-être on peut avoir certains déclics. Ouais.
Et dans le cas d'Axel Gisro et Arnaud Magnien qui viennent de la Fondation Luma, c'est quand même... La Fondation Luma, c'est un atelier qui a été fondé il n'y a pas si longtemps que ça, ça doit faire 5 ans maintenant je pense, et c'est un atelier de recherche qui est unique en France, avec des recherches qui sont vraiment... pionnière sur certains sujets. Donc pour les étudiants de l'ESSA par exemple, c'est vraiment complètement dans ce qu'ils peuvent faire, donc je pense que ça peut être intéressant pour eux aussi. Donc on l'a pensé en amont comme ça. On s'est dit, ça pourrait être aussi amener ça à Nevers pour les gens qui sont ici, ce serait chouette.
Les étudiants sont invités, mais tout le public est invité, bien sûr. Ça reste quand même multigénérationnel. Ça reste aussi pour tout public. Ce week-end de festival renoué organisé par Terrain Commun, ça commence samedi à 10h30 jusqu'au dimanche soirée 18h. On a toute la programmation qui est sur votre site internet. On peut également déjà réserver, je crois, pour certains moments du week-end.
Ouais. Exactement.
Ouais. La billetterie est ouverte en ligne, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Ça vous renverra sur Hello Asso et il y a tous les tarifs.
N'hésitez pas à réserver parce qu'il y a des conférences qui commencent un peu à se remplir.
Mais c'est une bonne nouvelle. C'est ouais. une bonne nouvelle.
Et c'est des ateliers aussi qui sont un peu. Voilà, ouais. On a une jauge un peu plus réduite.
Alors justement, au bout de 2 ans maintenant de l'association, qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous constatez de la part du public qui vient, parce qu'on rappelle que c'est pas ouvert que lors d'événements comme ça, comme le festival, hein. Il y a aussi des moments où on peut se rendre à Terrain Commun comme ça tout seul.
Alors on essaie d'ouvrir le plus possible comme ça, mais pour l'instant c'est vrai qu'on a fait surtout des journées pour de maintenance, enfin des espaces, etc., de plantation, etc. Mais on aimerait dans le futur pouvoir être ouvert aussi plus régulièrement pour que les gens puissent venir se promener par exemple ou juste passer un moment. Donc ça c'est aussi un des objectifs qu'on va essayer de mettre en place. Mais c'est vrai que le festival c'est un condensé en fait de l'activité de l'association sur un week-end. Il y a on va dire tous les formats à peu
Regardez
près
ce qu'on fait à l'année, on vous le balance en un week-end.
Exactement, en gros c'est ça, c'est un condensé.
C'est quoi l'objectif à l'avenir alors, donc au-delà maintenant d'ouvrir un petit peu plus aussi, de pouvoir le laisser encore plus en accès libre, est-ce qu'il y a d'autres objectifs?
Oui, c'est d'organiser encore plus d'ateliers, d'avoir peut-être une programmation pour tous les week-ends d'accès libre, mais aussi d'ateliers, de moments de jardinage, de formation à plus long terme aussi. D'être un lieu de résidence d'artistes aussi. On travaille déjà en collaboration avec le Centre d'Art sur une des intervenantes du festival.
Ravisius
aussi. Et Ravisius Textor. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très intéressés dans les sujets environnementaux et notamment qui travaillent beaucoup avec le végétal. Donc le jardin peut être un support aussi pour eux pour créer. Donc ça, c'est un projet qu'on souhaiterait développer tout au long de l'année. Et continuer d'organiser des spectacles, ça c'est quelque chose qui nous plaît aussi. Maintenant qu'on a ces deux grandes prairies avec les installations d'Olivier Vadreau qui sont pérennes, qui vont rester au jardin après le festival. C'est un super support aussi pour proposer des spectacles par d'autres associations ou par nous. Mais on veut que ce soit un lieu ouvert et qui puisse servir aussi à d'autres.
On se considère comme un écosystème pédagogique et créatif. Donc le but c'est vraiment la phase 1 du projet. Le but c'était de défricher, de créer des espaces, créer de mettre des structures, du mobilier. On est en train de construire aussi un atelier mobile, donc comme une tiny house qu'on pourra déplacer.
Ok. Est-ce que vous recherchez des bénévoles justement qui pourraient prêter main forte à un projet typiquement comme celui-là?
Ouais, on va ouvrir, on va faire des chantiers participatifs pour ce projet. Donc ça va se faire en co-création avec tous les gens qui gravitent autour et ceux qui veulent venir. Mais oui, le but c'est de créer un support comme ça, ce jardin, cet espace, il pourra servir à d'autres associations dans le futur. Donc il y a des ponts, il y a des collaborations qui se créent, donc il y a Ravisius Textor, vous en avez parlé juste avant.
Il y a la No School aussi qui était venue. Ça, c'est pareil, des associations avec lesquelles vous aimeriez travailler de plus en plus. Il est prévu que d'autres collaborations arrivent tout au long de l'année.
Il y a pas mal de choses dans les tuyaux, et la No School et Ravisius, c'est vraiment deux bons exemples de collaboration. C'est des projets qui sont différents des nôtres, mais qui ont une similarité dans la façon dont ils impulsent les projets.
Ouais, c'est important qu'il y ait un match quand même sur un point important pour les deux projets.
Ouais, on a trouvé pas mal de similitudes entre nos projets, et puis c'est des gens qu'on apprécie et qui ont fait des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et c'était vraiment super de pouvoir collaborer avec eux cette année, donc on espère que ça va continuer. Ravisius, c'est sûr, puisqu'on a vraiment lancé plusieurs projets ensemble pour 2025.
Ouais.
Après c'est un espace qui va s'ouvrir à d'autres associations. On pense aux accros, on pense à qui on pense
à tous ceux qui veulent en fait. On aimerait aussi que ça soit un lieu pédagogique pour les écoles par exemple, les centres sociaux, qui aient des moments qui est une école, enfin un appel aux instituteurs et institutrices, ça c'est un projet qu'on aimerait vraiment mettre
le côté pédagogique, assister encore plus dessus.
Complètement, et puis ça fasse vraiment partie aussi de leur programme, recevoir des collèges, peut-être des classes qui de temps en temps viendraient au jardin. Juste servir de support pédagogique et d'excuses aussi pour être dans la nature.
Ouais, le jeune public, c'est un axe aussi qu'on aimerait développer dans le futur.
Ouais, vous commencez déjà avec le côté étudiant pour ce festival-là, ouais. Mais peut-être à l'avenir encore plus avec le plus jeune public.
On a travaillé avec le centre social des Courlis. Ouais. Donc Pirate Barat qui sont menés par Galad Gonzalez qui fait un travail incroyable avec, oui. Avec les jeunes et ça on aimerait bien le continuer aussi parce que c'est vraiment hyper enrichissant et donc comme ils travaillent sur leur éco-quartier qu'ils ont beaucoup de projets qui sont en lien avec le vivant, il y a un pont qui se crée assez naturellement avec nous.
D'ailleurs Galad présentera son livre Éco-Courlis lors du festival
Éco-quartier,
ouais. Donc, c'est...
Le livre sera en vente à la librairie du festival.
D'accord.
C'est un très très beau livre qui est en plus pas très cher. Et que, donc sur leur travail sur l'éco-quartier des Courlis. C'est vraiment un super boulot. Si vous voulez venir le voir, Galad va aussi normalement faire une petite présentation sur le petit théâtre d'Olivier Vadreau avec les jeunes probablement. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas mis à la programmation parce que ça s'est fait après. On en a discuté après. Mais ça va être un super projet local pour le coup et qui est vraiment très très chouette.
Justement, c'est intéressant, vous parlez de cet éco-quartier des Courlis. Nous, on a un exemple aussi juste ici avec le nouveau quartier du Banlay qui va devenir Banlay Fertile avec un apport vraiment de la biodiversité énorme dans ces quartiers-là à Nevers. Vous, quel est votre regard dessus? Et vous qui travaillez un petit peu avec la ville de Nevers, finalement, parce qu'il y a ce lien du terrain commun, est-ce qu'ils vous ont demandé de participer potentiellement à quelque chose dans ce projet-là?
Ouais, alors pas sur Banlay Fertile directement. Par contre, on nous a invités à participer à... Alors je sais qu'il y a biodiversité là, un programme de...
Oui,
de
la oui, 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 on va en parler très bientôt d'ailleurs sur Bac FM, ouais, bien
voilà,
sûr.
Voilà, donc on a été invité à participer à plusieurs choses, ouais. Donc on est en lien avec eux sur certaines thématiques.
Sur les intervenants qui sont venus pour participer à ces deux créations de jardins finalement. Voilà, il y en a beaucoup qu'on connaît, qui nous donnent aussi un coup de main dans l'association. Et donc c'est des projets qu'on suit beaucoup. Je pense notamment à la Mela qui est beaucoup intervenue. Donc c'est des projets qu'on suit.
Et des projets qu'on aura bien sûr l'occasion d'évoquer sur Bac FM. En attendant, le premier projet qu'on va retenir, c'est celui qui arrive ce week-end. C'est un festival qui s'appelle Renouer. Ça commence à partir de 10h30 ce samedi. Ça se termine dimanche à 18h. Vous êtes bien sûr les bienvenus au terrain commun organisé par l'association Terrain Commun. Merci beaucoup à vous d'avoir été mes invités.
Merci.
Voilà Bac FM, le retour du son pop rock c'est tout de suite. On se retrouve demain à 13h avec mon dernier invité de la semaine et les infos de la mi-journée. À demain 13h.